Aujourd'hui, sur Antenne Doc, nous recevons Marc-Antoine, président de l'association L'Esquisse. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
Bienvenue dans nos locaux.
Merci.
Donc, tout d'abord, pour commencer, nous allons aborder un peu l'historique, la genèse de L'Esquisse, l'association L'Esquisse Kezako.
En fait, L'Esquisse, c'est une association, c'est un groupement d'habitants de la ville de Luzèche qui se sont mobilisés pour essayer de dynamiser une partie de la ville, la partie médiévale, qui est déjà extrêmement riche en atouts culturels, mais qui souffre d'un déficit de communication. Donc il reste des bâtiments extrêmement intéressants qui ne sont pas ouverts au public faute de personnel pour accueillir justement ce public. Donc on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser ces bâtiments magnifiques pour y organiser des actions culturelles, ce qui aurait le double avantage de faire connaître les artistes locaux et de faire connaître également le patrimoine culturel de la ville de Luzèche, qui est vraiment très riche, mais malheureusement qui n'est pas assez connu pour ce patrimoine.
Donc c'est pour ça que vous avez utilisé, vous disiez hors antenne, le presbytère ou le centre-ville peut-être aussi de Luzèche.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dans Luzèche, il y a un quartier médiéval qui est le long de la rue de la ville, et dans lequel on trouve effectivement un bâtiment qui s'appelle la Maison des Consuls, qui date du XIIIe siècle, un autre bâtiment qui est la Chapelle des Pénitents, donc le local que nous avons investi pour en faire une galerie, qui est en fait une chapelle désacralisée, qui date du XIIe, XIIIe siècle, et qui a des peintures magnifiques, qui rappellent un petit peu l'art chrétien rupestre des églises de Cappadoce. Vous voyez, c'est des motifs qui sont des motifs plus symboliques que figuratifs. Mmh. Et ensuite, après, on a trois musées dans la même rue, c'est-à-dire il y a le musée Armand Viré, qui est le musée où on trouve tous les vestiges provenant de l'oppidum du Xylodonum, qui est en fait un oppidum gaulois qui se trouve sur la colline juste au-dessus de la tour de l'Impernal, qui elle-même est un ancien château du XIIIe siècle. Enfin, disons qu'il y a une multitude de choses passionnantes à Luzèche, et pourtant Luzèche, malheureusement, n'a pas la même réputation que d'autres villages du Lot, comme Goujounac, ou comme Jindou, ou même Montcuq. Et donc on s'est dit que peut-être en donnant un petit coup de pouce à ce qui est déjà fait, on pourrait arriver à avoir un peu plus de notoriété, attirer un petit peu plus les gens pour les amener à découvrir tous ces trésors que possède cette ville.
Donc en mettant un accent prononcé sur la culture.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà... la ville a déjà beaucoup investi dans la culture avec le musée La Planète des Moulins, qui est un musée des énergies renouvelables, un musée qui fait 350 mètres carrés. Il y a 250 maquettes de moulins de toutes les régions du monde et de toutes les époques. Et ce sont des maquettes qu'on peut actionner. Et donc, on peut voir comment fonctionnaient ces moulins. Et il y a une nouvelle aile qui va être créé, qui sera consacré aux énergies du futur. Donc c'est un musée extrêmement, extrêmement avant-gardiste, extrêmement intéressant. Ensuite, on a ce musée Armand Viré avec des vestiges archéologiques, et on a l'Ichnospace, qui est un petit peu le résumé de la plage au Ptérosaure. La plage au Ptérosaure qui se trouve à Cressac, et où on peut voir des empreintes de pas d'animaux préhistoriques. Et on a des grandes plaques d'argile fossilisée dans laquelle on peut voir des empreintes d'animaux préhistoriques, et également des ammonites, donc qui datent de l'ère jurassique. Donc il y a ces trois musées qui sont extrêmement intéressants, qui sont peut-être uniques au monde en ce qui concerne en tout cas la planète des moulins, et que même certains habitants de Luzèche ne connaissent pas. Donc on s'est dit, voilà, il faut compléter l'offre culturelle de façon à pouvoir communiquer, parce que un musée, c'est là tout le temps. Donc c'est difficile de trouver des moyens de communiquer. Tandis qu'une galerie, les expositions se renouvellent. Donc à chaque exposition, on peut communiquer et par ricochet, parler aussi
des musées
qui sont juste à côté, quoi. Créer une espèce d'offre globale en coordonnant les manifestations pour que les gens, s'ils viennent à l'USECH, ils aient vraiment le choix de
vous proposer une déambulation culturelle.
Voilà, complètement.
Sur l'USECH.
Voilà, merci. C'est ce qu'on espère. On espère faire. Hein. Il faut rester humble parce que il y a des luséchois qui sont là depuis très longtemps et qui ont créé des associations et qui sont très actifs. Donc on ne veut pas non plus avoir l'air de donneur de leçons, mais on se dit que voilà, ça ne peut pas faire de mal d'être un peu plus nombreux pour faire connaître un village. Parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte, en raison de mon activité professionnelle, donc je travaille à la vie carcinoise, je m'occupe de la culture, je me suis rendu compte que la culture était un vecteur extrêmement important pour le développement même économique d'un village. Et on a des tas d'exemples que cette radio connaît très bien parce qu'elle en parle souvent, comme effectivement le festival de Jindou, ou comme Goujounart et d'autres qui montrent...
Il y a l'équinodoc aussi.
Et l'équinodoc,
par exemple,
qui montrent qu'avec un petit investissement et disons une prise d'initiative relativement peu risquée, on peut arriver à développer un endroit au point que, par exemple, Jindou, qui n'a que 240 habitants, possède une salle qui comporte 250 places assises. Donc ça montre bien que ça dépasse largement le cadre du village et que ça rayonne dans toute la région et au-delà.
Oui, on peut prendre l'exemple de Gignac aussi, avec l'écosystème qui est devenu un festival... national,
voilà.
Voire même international, avec les têtes d'affiches qui reçoivent.
Tout à fait. Et donc, voilà, moi, je pense que il y a une ébauche de retour des villes vers les campagnes, due en partie à la crise sanitaire, qui fait que les gens se rendent compte que vivre dans une ville, finalement, c'est pas la panacée, mais ils ont peur. En partant de ces villes-là, la campagne, la province, est un peu synonyme d'ennui. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'on disait plus province. C'est devenu politiquement incorrect. On disait les régions, parce que provincial, c'est pratiquement synonyme de rétrograde, quoi. Quand on dit de quelqu'un qu'il est provincial,
c'est un bouseux.
Voilà.
D'accord.
Et donc, moi, j'essaye de réhabiliter l'image, à mon échelle, à mon petit niveau, de réhabiliter l'image justement de ces provinces qui n'ont peut-être pas une offre culturelle pléthorique comme dans les grandes métropoles, mais qui ont une offre culturelle qui permet aux gens de rentrer en contact non seulement avec les œuvres, mais avec leurs créateurs, puisque justement c'est beaucoup plus intime. C'est pas de la consommation de culture qu'on fait ici. Ici, vraiment, on rentre dans la culture. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant.
Donc il ne faut pas trop le crier trop fort, puisque sinon ils vont venir trop nombreux.
Alors voilà, ça c'est, il faut trouver l'équilibre. D'un côté, si l'équilibre démographique est négatif, on perd des commerces de proximité, on perd des services, on perd des tas de choses.
Des écoles,
etc. Ouais. Si effectivement l'équilibre démographique est trop favorable, comme par exemple dans le Var, où il y a 350 000 nouveaux habitants par an, c'est-à-dire plus que la population du Lot, on arrive à une bétonisation de la région. Donc il faut trouver ce juste équilibre. Mais comme les atouts du Lot sont des atouts culturels, c'est pas des atouts, faciles, c'est des atouts exigeants. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici sont des gens exigeants, justement, qui cherchent pas, c'est pas des moutons, ils cherchent pas à s'agglomérer, à s'agglutiner, ils cherchent au contraire, justement, ce qu'offre le Lot de si précieux, qui est l'espace.
Tout à fait.
Voilà.
Je suis d'accord. Puis en plus, aujourd'hui, comme vous disiez, peut-être les villes sont en train de... Enfin, il y a une sorte d'exode urbain,
oui,
on peut
oui.
dire. certainement lié aussi à la communication Internet et
voilà.
Consorts qui permet aussi aujourd'hui de travailler de chez soi.
Tout à fait. On remarque que dans beaucoup de villages, bon, je citerai ceux que je connais, c'est donc Prayssac, Luzèche. Ils ont créé des espaces de coworking où les gens peuvent travailler, donc faire du télétravail, mais pas de chez eux, de bureaux qui sont mis à leur disposition et qui leur permettent également d'avoir quand même des relations professionnelles avec leurs voisins, parce que ce sont des open space. Donc, ils fréquentent, ils côtoient des gens. Par exemple, un architecte va côtoyer, je sais pas, un dessinateur industriel, et ils peuvent échanger. Et puis, ça crée une émulation, et puis ça crée aussi une relation entre les gens. Qui peut, à mon avis, être intéressante pour l'évolution de ce mode de travail, quoi.
Mais il est vrai qu'il y a quelques années, j'ai discuté avec certains maires, je ne veux pas tous les citer, et ils parlaient un peu des soucis qu'ils pouvaient rencontrer dans leur commune, qui peuvent être à la fois attractives, parce que le climat, le lieu, la beauté des lieux. En même temps, ils n'ont pas de commerce de proximité, les écoles sont loin, les loyers sont quand même pas moins cher qu'à Cahors ou ailleurs. Et c'était un peu difficile. Et souvent, le pari, c'est justement de faire venir un maximum de gens, de jeunes,
oui.
un peu actifs,
oui, oui.
qui derrière vont créer une dynamique
Tout à fait.
Associative,
Tout à fait,
culturelle.
Ouais. Ouais,
ouais. C'est plutôt une bonne chose. Bon, alors, l'usage est quand même assez riche, contrairement.
Oui,
moi, je pense que
quand même, moi, ça fait 11 ans donc, que je suis à l'usage. Et j'ai vu disparaître deux épiceries, une boucherie, une maison de la presse en à peine 11 ans pour une ville qui a presque 2000 habitants. Donc, à mon avis, il y a quand même... bon, c'est pas seulement dû à la désertification, c'est aussi dû au développement des grandes surfaces.
Au changement de mode de consommation.
Voilà, mais il faudrait essayer de freiner cette tendance et de l'inverser à terme, quoi. Et je pense qu'il y a moyen parce que on peut trouver des commerces qui ont une offre différente de la grande distribution. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de gens qui se lancent dans la permaculture, dans la culture biologique, qui créent des coopératives et les gens sont assez friands de ça. Même si les produits sont un tout petit peu plus chers, on est tellement, disons que c'est tellement plus rassurant de manger des produits biologiques que de manger des produits dont on ne sait pas exactement comment ils ont été produits. Bon, excusez-moi pour la répétition. Donc, en fait, je pense qu'il y a un avenir. Il y a un avenir pour une autre forme, peut-être, de commerce, mais qui peut en même temps apporter des produits de première nécessité. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir une épicerie bio et en même temps qu'elle vende du beurre, des œufs, pour que les gens puissent s'approvisionner en produits de première nécessité sans avoir besoin de prendre leur voiture. Parce que ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que dans la plupart des villages du Lot, pour faire ses courses, il faut prendre la voiture. Donc, c'est un problème à la fois sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de la santé publique, parce que les gens ne marchent plus. Ils se gardent devant chez eux,
c'est
ils
vrai.
Vont dans le supermarché. Enfin, donc, il y a des choses qui peuvent peut-être s'arranger avec une autre forme d'offre.
Ah, je suis entièrement d'accord. Après, vous savez, je suis encore scandalisé. J'ai toujours pas digéré l'année dernière. Petit mot au gouvernement. Qui nous ont donc interdit la vente de muguet dans la rue.
Ah
et
oui.
Si vous vouliez acheter un bouquet de muguet le 1er mai, vous pouviez le faire uniquement dans les grandes surfaces.
Ah oui. Ouais.
Bon, je pense que on n'a pas besoin d'en dire plus.
Non, mais c'est clair qu'il y a une méconnaissance et peut-être une certaine forme de mépris des élites parisiennes vis-à-vis des gens de la province. C'est clair qu'on peut pas le nier. Après, il faut pas non plus se victimiser, parce qu'en se victimisant, du coup, on fait rien pour que ça change. Et moi, je pense que plutôt que de protester, de ne faire que protester, c'est bien aussi d'essayer de proposer. Là, en l'occurrence, de proposer des offres culturelles pour attirer les gens, pour essayer de développer certaines choses.
Donc la galerie des pénitents, le vernissage ce vendredi, vous pouvez me dire un peu plus sur...
Oui, donc là on commence avec deux artistes, une peintre, une femme peintre, donc luséchoise, mais qui est originaire de Tchécoslovaquie, donc, mais qui vit dans le Lot depuis au moins 20 ans. Et donc elle a un style très particulier, on peut appeler son style de l'art narratif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ses toiles, c'est le moment d'une histoire. On peut imaginer ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et en même temps, c'est des tableaux qui sont figuratifs, mais qui ne s'apprécient pas toujours au premier regard, quoi. C'est-à-dire que c'est quand on y revient que là, tout d'un coup, on a la révélation de ce que sa peinture a de beau et d'universel. Et donc, on a aussi un sculpteur, donc qui s'appelle Jaco, qui nous vient de Concotes, qui s'inspire beaucoup des personnages d'un triptyque d'un peintre flamand dont j'ai oublié le nom, dont j'ai honte. Ce triptyque s'appelle Le Jardin des Délices. C'est de.
Alors là. Bon. Très bonne question.
Et en fait, ça représente les enfers et avec des personnages très très particuliers, un petit peu difformes, tordus, des hommes avec des corps d'oiseaux, tout ça. Et il s'inspire de ce bestiaire pour créer son propre univers, quoi. Et c'est en métal. Au départ, c'est un ferronnier, donc qui a fait une formation de chaudronnier et qui après s'est mis à créer des objets. Et il est devenu un des artistes les plus représentatifs de ce qui se fait actuellement.
Donc ces deux artistes, peintres et sculpteurs, vont partager une galerie.
Ils vont partager donc cette galerie qui s'appelle qu'on a appelée la Galerie des Pénitents, qui au départ s'appelait la Chapelle des Pénitents et même la Chapelle des Pénitents Bleus, qui est une église qui a été construite à la fin du XIIe siècle et donc qui est très intéressante par sa façade qui est intacte, qui date de l'époque de sa construction et avec des éléments architecturaux qui sont, d'après les spécialistes, qui sont très rares. Et donc, et à l'intérieur, bon, bien sûr, l'intérieur a été refait plusieurs fois, et il y a des fresques qui sont vraiment magnifiques. Et nous, on s'est attaché à mettre à la fois les œuvres d'art en valeur, mais également leur écrin qui est cette chapelle des pénitents. Donc, les gens, même s'ils sont pas sensibles, donc à la création artistique, mais qui sont sensibles au patrimoine, il faut qu'ils viennent ne serait-ce que pour visiter cette chapelle, qui est assez spacieuse quand même, elle fait 70 mètres carrés, et elle a beaucoup de choses vraiment intéressantes.
Ben merci beaucoup, Antoine. Mais j'espère qu'on se retrouvera.
Ben moi aussi.
Donc on rappelle, le vernissage a lieu ce vendredi 13 à partir de 18h.
Malheureusement, on est soumis aux contraintes du contrôle sanitaire, du pass sanitaire.
J'imagine.
Voilà, donc je préfère prévenir les gens, parce que... Il ne faut pas qu'ils viennent, qu'ils se sentent rejetés, quoi, s'ils n'ont pas leur passe sanitaire.
Je comprends. Donc ça a lieu à Luzèche.
Voilà.
Donc à côté, sur la prairie du presbytère ou...
En fait, non, ça c'est rue de la Ville.
Rue de la Ville.
Rue de la Ville. En fait, à Luzèche, il n'y a pas beaucoup de rues. La rue de la Ville, c'est la rue qui est perpendiculaire à la place du canal. Qui rejoint les deux bras du Lot. En fait, l'usage se trouve dans une boucle du Lot, qui est d'ailleurs très spectaculaire, qui fait 4 km. Et autrefois, on avait creusé un canal au milieu de l'usage pour couper cette boucle du Lot. Mais comme la navigation s'est arrêtée depuis longtemps, on a comblé le canal et c'est devenu la place du village. Voilà. Et donc, la rue de la Ville démarre de cette place du canal, à peu près au milieu, et va en direction de Castelfranc, enfin voilà. Et donc après, l'exposition va durer jusqu'au 28, au samedi 28 août, et la galerie sera ouverte tous les jours, dimanche compris, de 15h à 19h.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, bien sûr. Oui.
Je vous remercie beaucoup, Marc-Antoine.
Ben, je vous en prie. Merci
Au
beaucoup.
Revoir.
Au revoir.